1996, cours de Ravemann au centre Dufresnoy à Paris.
C'est là où on était, non ? Agui Dali, raconte-moi, dis-moi, dis-moi Gada, Shehava Nafshi, c'est une parenthèse, c'est lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on dit Shehava Nafshi, celui que j'aime, ici c'est Nefesh, l'âme que mon âme aime, c'est pour ça que c'est au féminin, Eichatir'e, où feras-tu paître? Sous-entendu, les troupeaux. Eichaou, Tarbitz, tu les mèneras, Batsoraim, au midi, à l'heure du midi. Shalama, car pourquoi, ayez serais-je que Otia. Otia, ça vient du mot Yaate, c'est-à-dire couvrir. C'est le signe de celui qui est en deuil, que Otia comme une endeuillée, Al-Edré, envers les troupeaux, Chaverecha, des autres ou de tes amis. Donc encore une fois, si on traduit littéralement, Agid Ali Shahav Nafshi, toi que j'aime, dis-moi, Echatire Echat Arbitz Batsoraim, où feras-tu paître et où conduiras-tu le troupeau Batsoraim à l'heure de midi? Shalama Yekotia, car pourquoi serais-je comme une endeuillée? Aledrecha Verecha, envers ou à côté, Edrecha Verecha, les troupeaux des autres. Si on prend la traduction littérale de Rashi, il dit que c'est le peuple d'Israël qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Et voilà ce qu'il lui dit. Agid Ali Shehava Nafshi, est-ce que tu peux me dire, Echa Tire, Echa Tarbitz Batsoraim, comment mèneras-tu le peuple Tire lorsqu'il sera sur sa terre, Echa Tarbitz Batsoraim, comment le mèneras-tu lorsqu'il sera dans la galoute, en exil, Tsoraim, Rachidi, c'est l'heure la plus difficile pour le troupeau, l'heure du midi, où il faut les protéger. Shalama, pourquoi, si tu me demandes pourquoi est-ce que je veux savoir ça, Shalama, car pourquoi, et ayez, serais-je, que Otia, comme une endeuillée, c'est-à-dire quelqu'un qui est mis à part, qui n'a pas droit à la joie, Aledrecha Verecha, lorsque les nations, elles, auront droit au bonheur. Voilà la traduction de Rashi. Donc c'est une question qu'adresserait le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu peux me dire, le Midrash dit en vérité que c'est la répétition de la question qu'a posée Moshe Rabbeinu lorsque on lui a dit qu'il ne ferait pas rentrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Il a dit, ok, moi je ne ferai pas rentrer le peuple en Israël, mais je voudrais savoir comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'ils feront. Donc ici, c'est comme si le peuple juif demandait une référence. Seulement la motivation, elle est intéressante. Agid Ali Shehavan Afshir Khatire Khatarbit Batsoraim. Ça, c'est compréhensible. C'est-à-dire, quelle est la référence sur laquelle peut compter le peuple juif lorsqu'il est sur sa terre, et Khatire, et Khatarbit Batsoraim, lorsque c'est l'heure où il faut se mettre de côté. Lorsque les heures deviennent difficiles, comment est-ce que doit faire le peuple juif? Mais la motivation, elle est difficile. On aurait pu comprendre, on dit, c'est un souci légitime, je veux savoir ce qui va m'arriver. Donc on aurait dit, chez la maille, pourquoi est-ce que je serai sans référence? Pourquoi est-ce que je serai sans personne pour me conduire. On voit que c'est pas ça la motivation. Chez la maille et que otia. Pourquoi est-ce que je serai comme une endeuillée? Ça veut dire quelqu'un qui a un problème et qui n'arrive pas pour le moment à le résoudre. Otia, ça veut dire celui qu'on met de côté, il participe pas à la joie. C'est pour ça que le Midrash dit pourquoi est-ce qu'il y aurait un Chilul Hashem? Chilul Hashem, on traduit profanation du nom divin. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, lui, n'a pas peur pour son avenir de comment est-ce qu'il va surmonter. Là, il a une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ce dont il a peur, c'est de ne pas savoir la conduite à prendre à ce moment-là. Ça veut dire que je veux bien subir, je veux bien penser que tout sera pas rose, mais je ne veux pas avoir l'air de celui qui endort et qui ne comprend pas ce qui se passe, alors que les autres ont une conduite à tenir. Rashi dit une chose ici, il dit « Ben gedudei haumot asomchim al Elohim acherim veyesh lahem melachim vesarim » motamo. « Somchim Elohim acherim » eux qui ont d'autres dieux, donc qui n'ont pas de référence, ils ont melachim vesarim. Eux, ils ont des rois et des princes ou des ministres. Alors que moi, j'ai rien. Voilà ce qu'il dit le peuple juif. Mani Gimota. Donc si on résume, on va être obligé de comprendre le verset comme ça. Les autres, chacun ont leur conduite. Ils ont Melachim et Sarim. Ils ont des gens pour les conduire. Ils ont des idéologies. Mais nous, lorsqu'arrivera l'heure de l'épreuve, comment est-ce qu'on va faire? Bizarrement, ce qui, dans la Torah, a l'air d'être une qualité du peuple juif, ça va devenir un défaut. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que Yaakov Avinu, lorsque Yaakov a lutté avec l'ange, l'ange qu'on dit être celui de Esav, qu'est-ce que ça veut dire l'ange de Esav? Ça veut dire l'idéologie de Esav. Là-bas, il est écrit dans le Midrash et dans la Gemara que chaque peuple a un sar, chaque peuple a un préposé qui lui indique sa destinée. Ce préposé, ça peut être une idéologie, ça peut être des hommes, ça peut être des politiques. Ce que c'est que le sar, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a certaines règles de l'histoire qui vont gérer les peuples. Mais il y a, comme on l'a dit, qui s'arrête à Ima Elohim Vatuchal, motamo. Toi, tu es au-dessus de tout ça. Tu es dirigé directement par Akadosh Baruch. C'est-à-dire que le peuple juif n'obéit pas à des règles qu'on pourrait déterminer dans l'histoire. Lui, il obéit directement à Kadosh Baruch Hu, parce que, en ayant vaincu l'ange, en ayant vaincu le préposé de Esav, il se situe au-dessus. La même chose, il est écrit dans Devarim, dans la paracha de Ekev, que Tamid ene Hashem Eloke Rabba Mireshit Shana Dacharit Shana, la terre d'Israël, elle n'obéit pas à une histoire qui est celle des nations, mais elle obéit à l'histoire du peuple juif. Les règles sont différentes. Là-bas, le Midrash dit, la terre d'Israël, elle est régie par la Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est la seule terre qui renvoie ses habitants lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la seule terre qui ramène ses habitants lorsque quelque chose va mieux. Ça veut dire qu'elle n'est pas régie par des règles qui sont celles de la politique ou de l'histoire. Même si on détermine des règles de l'histoire, le peuple d'Israël a des rapports avec sa terre, avec la galoute, qui ne sont pas du tout déterminés par toutes les règles qu'on pourrait trouver dans l'histoire. Donc ce qui était une qualité, ça va devenir un défaut. Ce qui, si on voit le contraire, on voit que le peuple d'Israël s'adresse à Dieu et lui dit, les autres ont des références. Mais nous, on est laissés à nous-mêmes. Alors, à Guy Dali, dis-moi comment faire pour m'en sentir, et au moment où le peuple juif est sur sa terre, et au moment où le peuple juif est à la merci, ou est à côté des autres peuples dans la galoute. Donc c'est bizarre qu'une qualité devienne un défaut. En vérité, la réponse est simple. C'est que si le peuple juif obéit à des règles, ce sont des règles intérieures au peuple juif, et ce ne sont pas des règles extérieures. Lorsqu'on dit que les autres peuples de la terre ont des lois de l'histoire, obéissent à des règles déterminées, ça veut dire que l'histoire a été ainsi écrite par Dieu que chaque action entraîne une réaction et qu'on peut écrire à l'avance l'histoire des peuples à partir du moment où on a compris les règles d'action et de réaction. En ce qui concerne le peuple juif, ce n'est pas valable. Mais il y a quand même une règle, c'est ce qu'a demandé le peuple juif à Guy Dali. Il y a une règle qui est intérieure, elle n'est pas extérieure. Elle n'obéit pas à un schéma qui sera fixe depuis le début. Mais il y a une règle intérieure. La règle intérieure, on voudrait la savoir. En disant que le peuple juif ne dépend pas des autres peuples, ne dépend pas des règles de l'histoire, il dépend quand même de quelque chose. Parce qu'à chaque action, il doit y avoir une conséquence. Et là-dedans aussi, il y a des règles. Donc on pourrait dire que c'est ici que se pose le problème de savoir quelles sont les règles. C'est vrai que Yaakov Avinu, on lui a promis, on lui a dit, toi, tu es à part. Sarita. Israël, ça vient du mot Sarita. Tu as vaincu, tu as gagné, tu es au-dessus. Mais celui qui est au-dessus, il n'a peut-être pas les mêmes règles, mais il a les règles. Quelles sont ces règles? Ce serait ici la question à Guy Dali. Dis-moi, quelles sont ces règles? Là se pose encore un deuxième problème. Vous savez que nous aussi, on a des institutions. Le peuple juif a des institutions, au moins lorsqu'il est sur sa terre. Les institutions, elles sont doubles. D'abord, il y a la royauté, Melech, puisque c'est une des trois mitzvot auxquelles ont été astreints le peuple juif au moment où il est rentré en Israël. L'imot la Melech, de se choisir un roi. Il y a une autre institution qui s'appelle le Sanhedrin, qui a été ordonné à Moshe Rabbeinu, Esfali Shivim Zekenim. Tu vas me prendre 70 sages, plus Moshe Rabbeinu, ça fait 71. On appelle cette institution le Sanhedrin. C'est à lui de fixer les règles. Et ceux qui ont déjà fait la Gemara au commencement du traité de Brachot savent que on se concerte avec le Sanhedrin, le roi choisit une politique, donc il y a des institutions. À partir du moment où il y a des institutions, quelle est la question? Les autres, dit Rashi, ils ont Sarim et ils ont Melachim. Nous aussi, on a des institutions. Même si on dit que le Sar, ce serait une espèce d'histoire qui a été écrite, des civilisations, et qu'on pourrait retrouver, certains philosophes essayent de déterminer des règles de l'histoire. Il en reste qu'on a quand même des institutions. Donc lorsqu'on dit Khatire, Khatarbit, On demande au bon Dieu comment toi tu vas faire. Et pourquoi demander comment toi tu vas faire? Il n'y a qu'à demander comment est-ce qu'on doit faire, quelles sont les institutions. On te répondra, voilà, tu regardes dans la Torah. Voilà comment fonctionne le peuple juif. En plus, il y a ce qu'on appelle Shotrim, il y a la police, il y a Shoftim, il y a les juges. Toutes les institutions qui doivent régir un peuple sont écrites dans la Torah. Là, on rentre dans un problème qui est celui-ci. Il est écrit dans le Rambam, dans Maïmonide, et c'est la conséquence d'une règle qui est écrite dans la Gemara dans Sanhedrin. En me manim melech ela alpi Sanhedrin. On ne nomme le roi que d'après le Sanhedrin. Il n'y a pas de suffrage universel. La filiation, elle n'est pas obligatoire. C'est le Sanhedrin qui nomme le roi. De même que c'est le Sanhedrin qui nomme le Sanhedrin peut le défaire aussi. Quelle est l'institution du Sanhedrin? Alors, il faut savoir que l'institution du Sanhedrin, elle est très simple. Il y avait 71 membres. Devant le Sanhedrin était la Gemara dit que Goren Agula, assis en plusieurs rangées, 5, 6, 7, 8 rangées, en demi-cercle, les élèves. Suivant la progression des élèves, ils changeaient de rang. Suivant qu'une place se libérait dans le Sanhedrin, c'est un élève qui montait et qui prenait une place dans le Sanhedrin. Ça veut dire que le Sanhedrin est réservé exclusivement aux Talmidei Chachamim, ceux qui suivent l'enseignement des maîtres qui sont dans le Sanhedrin et qui représentent l'étude de la Torah. Ce qui veut dire, c'est que la règle de la royauté est soumise à la règle de la Torah. Quelle est la raison d'être du roi et quelle est la raison d'être du Sanhedrin? Pour ça, on va ouvrir une parenthèse. Vous savez qu'à propos du Shabbat, il est écrit « Shechet yamim ta'avod » pendant 6 jours tu travailleras « Uvashvi » et le 7e tishbot tu observeras le Shabbat. La Gemara demande Shechet Yamim Ta'avod, c'est comme si c'était un ordre. Est-ce qu'on ne parle pas de Davar Roshut? Est-ce que ça n'est pas quelque chose de facultatif? Je fais ce que je veux, comme je veux. Pourquoi me le donner sous la forme d'une obligation? Que le Shabbat soit une obligation, je comprends. Puisqu'on me dit de ne pas faire. Mais que de faire soit une obligation, alors que le faire n'a pas été choisi, ta'avod, travailler. Tout dépend de la condition de la personne. Je peux être en vacances, plus que 6 jours. Ne rien faire ou faire, c'est un choix qui n'obéit pas à l'obligation de la Torah. Que j'aille à mon bureau le matin ou que j'y aille pas, c'est un choix qui n'a rien à voir avec la Torah. La réponse, elle est écrite dans le Rambam. Le Rabbi Nobuchai la ramène et dit ceci. Ce qui a marqué Shechet Yamim Ta'avod, c'est une obligation. Mais ce n'est pas l'obligation d'aller bosser, d'aller travailler, de faire. C'est que les Shechet Yamim, les 6 jours où tu travailles, tu es obligé de travailler selon une certaine loi. Quelle est la loi? Tout le monde connaît les Pirkei Avot. Il ramène le verset dans Michelet. Shlomo HaMelech a dit Bechol Derachecha Da'ehu. Bechol Derachecha, dans toutes tes voies, Da'ehu, connais-le. Connais-le, ça veut dire fais parce que ça a un rapport Bechol Derachecha, dans tous tes chemins. Il n'existe rien qui n'ait pas de rapport Da'ehu avec ce que Dieu t'a enseigné. Donc le Rambam explique, il dit voilà, pendant les 6 jours de la création, tu dois trouver dans la Avoda ce qu'on t'a ordonné. Où va chevilly, mais le 7e jour, Tishbot, ce qu'on t'a ordonné, tu dois le trouver dans le fait de cesser le travail. Ça veut dire que toute chose est une occasion. Il n'y aurait rien qui soit neutre dans la vie du ta'avod, du travail. Qu'on parle du travail comme nous on l'entend, qu'on parle du travail du point de vue physique, la notion de travail, c'est une notion de rechercher dans l'événement et dans la création. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu veut de moi? C'est ça le sens. Pendant les 6 jours de la semaine, ici tes Pirkei Avot, Yiyu Kol Ma'asecha, toutes tes actions doivent être le Shem Shamayim. Notamment, ça veut dire hein, en faveur du ciel. Ça veut dire qu'il n'existe rien où tu ne peux pas exercer ta liberté d'obéir ou de ne pas obéir, de faire ou de ne pas faire, de penser ou de ne pas penser en tant que mitzvot de la Torah. C'est ça le sens chez Shemitah Avot. Où va Shvi? Mais le 7e jour, tu n'as pas besoin de rechercher ça dans l'action, tu le trouves dans le fait de cesser même, là même tu fais quelque chose qui est le Shem Shamayim. Si on va un petit peu plus loin, on va comprendre encore autre chose. Vous savez que le Shabbat, c'est une notion qui pour nous est difficile à cerner, parce que la référence, c'est le bon Dieu lui-même. Si je regarde dans les 10 commandements, on me dit tu vas observer le Shabbat. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est arrêté. Quels sont les travaux, entre parenthèses, les actions, desquelles je dois m'arrêter, moi, le Shabbat? Ça n'a aucune ressemblance avec celle de Dieu dans la création. Moi, je sais faire ni le ciel, ni la terre. Alors, la référence, on nous dit, c'est pas difficile, tu vas chercher le mot melacha, qui veut dire travail ou action, dans ce que l'on faisait au Mishkan. Dans ce que l'on faisait dans l'Ohel Moed, la tente d'assignation, pour la montée et pour le service qui était le service divin pour le Shabbat. Ça doit s'arrêter. Donc ma référence à moi, c'est quoi une melacha? C'est ce qu'on faisait pour monter le Mishkan, ou pour le défaire, ou pour exercer le service. Quel est le rapport entre les deux? C'est vrai que maintenant, moi, j'ai une référence. Avant, on m'a dit, tu t'arrêtes, comme le bon Dieu s'est arrêté. Je ne savais pas comment c'était. Maintenant, on dit, tu t'arrêtes, va regarder, voilà la référence, toutes les melachot. Tout ce qui est considéré comme une action qui était obligatoire et qu'on aurait dû faire le Shabbat dans le Mishkan, on s'arrête. Très bien. À cause de la similitude des mots melacha, qui est marqué dans le Mishkan et dans la mitzvah de Shabbat. Donc j'ai compris maintenant qu'il y avait une référence, alors qu'avant j'en avais pas. Mais j'ai toujours pas compris quelle est la relation entre cette référence et l'autre référence. D'après ce qu'on a dit avant, vous avez tout de suite compris que c'est ça la référence. Sheshet Yamin Ta'avod. Les 6 jours de la création, Dieu s'est acharné à nous trouver une façon de le servir, à nous trouver une façon de le connaître. Bechol de Rachecha Dayu, il a créé un monde dans lequel l'homme trouve et est obligé à chaque instant que sa référence, elle soit la raison pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire le service divin. Comment tu vas trouver, toi, ta référence? Ce que toi, tu crées et ce que toi, tu fais pour le service divin. De même que les 6 jours de la création ne sont qu'une possibilité qui t'est donnée de ce verset « Bechol de Rachecha Dayu » connais-le dans tous tes chemins, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde, il t'a réservé une possibilité de le servir. De même, toi, tu t'abstiens de création qui te donne une possibilité de le servir. Quelle est la création qui te donne une possibilité de le servir? Le Mishkan. Donc on a exactement la même référence si on regarde l'importance pour nous des 6 jours de la création que celle de la avoda, du service dans le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire le service dans le Mishkan? Ça veut dire servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la création? Servir Dieu. Dieu s'est arrêté de te procurer une possibilité de le servir. Arrête-toi de te procurer une possibilité de le servir. Comment t'es donné la possibilité de le servir, toi, dans le Mishkan? Ça, c'est le pendant à ce que tu ne sais pas faire. C'est de trouver dans la vie une possibilité de le servir, mais où tu vas trouver, dans cette vie matérielle, une possibilité de le servir. Donc maintenant, on va comprendre le verset. Puisque Dieu s'est arrêté de travailler pendant le septième jour, et qui t'a préparé un monde, monde dans lequel tu pourras trouver, il t'a préparé un endroit, il t'a préparé une vie où tu as la possibilité de le connaître, alors toi aussi tu vas t'abstenir de te créer un endroit et de servir dans cet endroit où tu as la possibilité de le connaître. La différence, elle est énorme. C'est que dans le Mishkan, dans le Beit HaMikdash après, il y avait des nissim qui étaient tous les jours. Il était impossible pour un homme de pénétrer dans le Beit HaMikdash et de ne pas reconnaître la présence divine. C'est pour ça que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit « À Sara Nissim, il y avait 10 miracles qui étaient quotidiens au Beit HaMikdash. » Alors que dans la vie de tous les jours, j'espère en vain les 10 miracles, je ne les trouverai jamais. La différence, elle est très simple maintenant. Lorsque c'est Dieu qui me prépare un endroit pour le servir, il est évident que cet endroit dépend de mon choix. Lorsque c'est moi qui prépare un endroit pour le servir, j'ai déjà choisi. À partir du moment où j'ai déjà choisi, il peut avoir révélation quotidienne. Ça veut dire que je ne peux obtenir de vérification sur ma Emouna qu'après avoir choisi. Lorsque c'est moi qui me prépare un endroit pour servir Akadosh Baruch Hu, alors j'ai droit à attendre que Akadosh Baruch Hu se manifeste. Mais lorsque c'est lui qui me prépare un endroit pour le servir, il est en droit d'attendre que c'est moi qui me manifeste. C'est pour ça qu'il y a ces différences entre les deux. Si jamais on trouvait que dans la vie de tous les jours, le miracle se manifeste, et dans le Mishkan, le miracle ne se manifeste pas, alors là, on aurait une intervention qui va à l'encontre de l'histoire. On pourrait imaginer que c'est ça la question. Le peuple juif demande des miracles, il demande une intervention de Dieu. Et Khatab, il dit, je voudrais savoir comment tu vas faire. On pourrait s'attendre à ça. On va voir si c'est ça la réponse au verset d'après. Mais maintenant, on pourrait comprendre que ce soit ça la question. La question c'est, tu as préparé un endroit qui dépend de la liberté de l'homme, qui dépend du choix de l'homme, c'est à lui de trouver. Toi, tu n'as fait que préparer le terrain pour que l'homme puisse trouver en quoi il est au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le miracle, ne peut absolument pas se manifester dans ce registre-là. Alors que dans le Mishkan, je comprends, dans le Beit HaMikdash, je comprends qu'il se manifeste, puisque c'est déjà la résultante du choix. Ça, c'est les choses que je peux comprendre. Donc on pourrait s'attendre qu'une des questions ce soit, est-ce qu'il y a eu des miracles qui nous ont prouvé qu'on était dans la bonne direction? Est-ce qu'il y aura des choses qui vont faire que le peuple juif est conduit par une certaine ligne ou non? En vérité, on va voir que la réponse, ce n'est pas exactement celle-ci. Mais on va refermer la parenthèse. Nous, on est arrivé maintenant à un stade où on doit comprendre qu'il n'y a rien qui ne fasse pas de possibilité à ce qui est marqué dans le verset d'Aéou, connais Dieu. Vous allez me dire, je vais au travail à 8h du matin ou 8h10. Moi, je ne peux pas savoir dans la vie de l'autre. Mais je peux savoir qu'il y aura toujours une différence. C'est à la personne de savoir et de relier les choses. Ça veut dire que la vie, on ne peut pas croire qu'elle puisse exister si elle n'a pas un intérêt. Et le seul intérêt que la vie a pour l'homme, c'est de pouvoir reconnaître Dieu dans la matière. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Refermons la parenthèse. On a demandé à quoi sert le roi, il sert à ça. À quoi sert le roi? C'est que même dans la vie civile, ou même dans la vie politique, il y a une façon de se conduire, on va reciter le verset, « Bechol de rachecha dayo ». Ça, c'est au roi de le faire. Quelle est la conduite du peuple juif, en tant que juif, dans la vie civile et la vie politique? Ça, on s'est soumis à une chose, au Sanhedrin. Et là, on va trouver quelque chose de bizarre. Il y a deux types d'hommes. Il y a un homme qui est un homme d'études, mais qui est ignorant de la vie pratique. Il y a un homme qui est un homme pratique, mais qui est ignorant de la vie de l'étude. On peut imaginer qu'un homme pratique soit versé dans l'étude. Mais là où il est bon, c'est l'action. Maintenant, il a besoin de diriger son action, donc il a besoin de l'étude. On peut imaginer qu'un homme d'étude soit conduit à l'action. Mais là où il est bon, c'est l'action, et l'étude, et là où il est bon, c'est l'étude, et l'action, ça n'est que parce que l'étude, elle doit bien déboucher sur quelque chose, donc ça donne de l'action. Il est rare de trouver des gens qui se révèlent dans l'action, mais dont la sensibilité, c'est l'étude. Il est rare de trouver des gens qui se révèlent dans l'étude et que leur sensibilité soit celle de l'action. Pourtant, le roi, qui est l'homme d'action, il est soumis à la sensibilité de l'homme d'étude. Alors on pourrait dire, mais l'homme d'étude, qui est-il pour pouvoir lui-même décider que ce que le roi fait c'est bien, ce que le roi fait c'est pas bien? C'est lui qui nomme, c'est lui qui le démet de ses fonctions. Lui, c'est un homme d'étude. Ça, c'est le grand chidouche, ça, c'est la grande nouveauté que la Torah demande dans les institutions du peuple juif. Puisqu'on a dit que l'action, ça n'était que pour révéler la présence divine dans la vie de tous les jours, il est évident que l'homme d'action ne peut trouver de source ni de voie d'action que par rapport à ce que la Torah demande. À partir de ce moment-là, il est normal que ce soit le Sanhédrin qui puissent ou qui doivent nommer et défaire ce qui doit être fait. C'est-à-dire que j'ai deux registres de connaissance de Dieu. J'ai la reconnaissance dans l'action. Et j'ai la connaissance dans l'étude. Mais dans l'action, ce sera toujours une reconnaissance de celle que j'ai déjà eue dans l'étude. Si je n'ai pas d'idée, je ne trouverai pas dans l'action les différents modes de reconnaissance de Dieu. La vie du peuple juif, la vie du juif, c'est de pouvoir retrouver à travers ce qui se passe dans son monde, ce qu'on appelle reconnaître, ce qu'il a connu dans l'étude de la Torah. Et les deux sont indispensables. Le roi, c'est ça l'institution, il doit être soumis à l'idée. Il ne peut qu'exécuter ou mettre en action l'idée. De même qu'un homme, à chaque instant, doit se demander quelle est l'idée que je mets en action exactement. Chaque fois que quelqu'un a un problème, un dilemme, ne serait-ce qu'une réflexion, un choix, il est toujours obligé de se demander quelle est l'idée que je mets en action ici. À partir de ce moment-là, il va voir d'abord que ses choix sont différents, ensuite que il trouvera beaucoup de moments où l'idée ne sera peut-être pas tellement honorable et il sera obligé d'y renoncer. Et c'est ça ce que Shlomo HaMelech nous a dit, Bechol Derachecha Da'ehu. Il n'existe rien dans la vie, aucun choix, aucune possibilité, on pourrait dire aucune heure, où je n'ai pas cette possibilité-là de Avodat Hashem. Ça, c'est ce qu'on va comprendre. Donc nous, on avait demandé, qu'est-ce que demande le peuple juif? Les goyim ont des institutions, nous aussi on a des institutions. Mais on n'a pas d'institution. On n'a qu'une exécution dans la vie de tous les jours de mise en pratique d'une idée. C'est tout ce qu'on a. La grandeur de l'homme, c'est de se situer par rapport à cette idée. Est-ce que l'idée honorable, elle n'est pas honorable? Est-ce que l'idée se justifie ou elle ne se justifie pas? C'est-à-dire que lorsqu'on pose une question à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Les réponses, genre, ça me fait plaisir, parce que c'est comme ça. C'est exactement la négation du Shechet Yamim Ta'avod. Shechet Yamim Ta'avod, on a dit, ça veut dire, tu es obligé de mettre en application ce que tu as connu, ce que tu as compris, ce que tu as emmagasiné, ce que tu as étudié. Le Shabbat, ça s'arrête. C'est autre chose. C'est plus le domaine de l'action. Mais la semaine, c'est le domaine de l'action. Et cette action, elle est obligatoire. Personne au monde ne peut vivre sans aucune sollicitation. Il n'y a personne au monde qui peut dire « j'avais pas le choix, j'avais pas de dilemme, j'avais pas de problème, j'avais pas de possibilité. » Tu as toujours 2, 3, 5, 10 possibilités. Et chaque fois, la référence, elle doit être le bon d'un jour, il va me dire, devant ce choix-là, comment tu as réfléchi? Selon quels critères? C'est pour ça qu'on a dit, la création, c'est un terrain que Dieu a construit pendant 6 jours pour nous donner cette possibilité-là. À partir du moment où je ne l'utilise pas, je suis kofer de Maaseh Bereshit. Ça veut dire, je renie la création de Bereshit. Tous les commentateurs demandent, pourquoi? Quelqu'un n'a pas envie de faire ceci ou de faire cela. Il n'est pas kofer. Si, il est kofer. Kofer, ça veut dire renier. Parce que ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir une vision du fait que tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'est proposé, toutes tes possibilités, c'est le bon Dieu qui t'a préparé un terrain et c'est ça les 6 jours de la création. Donc tu es kofer, tu les nies. Maintenant, on peut nier parce que on pense qu'on est obligé. On peut nier parce qu'on a envie de nier. Les motivations de la négation, elles sont multiples et elles engagent que la responsabilité de leur auteur. Mais il n'empêche que c'est une négation. Celui qui viendrait et qui me dirait « Moi, je suis neutre. j'ai fait ni bien ni mal, ou dans ce que je fais, il n'y a ni choix ni possibilité, c'est une négation du fait que Dieu ait créé le monde. Ah, tu penses que ce que dit la Torah c'est vrai, il y a eu 6 jours de création. Tu le penses, mais tu le nies. Parce que les 6 jours de la création n'ont absolument aucune valeur si ça n'est qu'il prépare un terrain où tu dois avoir la possibilité d'exercer tes choix. S'il existait, entre parenthèses, une bulle où il n'y aurait pas ces choix-là, c'est-à-dire que ça ne ferait pas partie des 6 jours de la création, c'est impossible. D'où ça vient? C'est pour ça qu'on appelle ça nier. On est qu'offert de main à ses bourgeois. Donc on va revenir à notre problème. Le peuple juif demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, Echatire Echat Arvitz Batsorem. Je vais voir comment ça va se passer. Alors regardez la réponse. La réponse est dans le verset suivant, le verset 8. Imlot Edilach. Imlot Edilach, si tu ne sais pas, le jour où tu ne sauras pas. De nouveau une parenthèse, de même que le peuple juif a une expression vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est chez Avanafi, celui que j'aime. Dieu lui répond aussi par l'expression Hayafa Banashim. Hayafa Banashim, ça veut dire la plus belle parmi les femmes. Après, on traitera cette parenthèse parce que c'est plutôt péjoratif par rapport à ce que le peuple juif a adressé à Kadosh Baruch Hu. Pas parce qu'il s'agit d'une femme. Tseilach, motamo tseilach. Sors. L'art, c'est toi. De Ikve Hatson. Ikve, ce sont les pas. Hatson, du troupeau. Ourei, effet paître. Gedi Otaïr. Gedi, c'est les brebis. Al Mishkenot, sur les domaines, Aroïm des bergers. Voilà le truc. Imlot Edilach Hayafa Banashim. Si toi qui es la plus belle entre les femmes, tu ne sais pas, Tzilach, tu sortiras Bikve Hatson. Sur les pas du troupeau, pour Yed Gediotaïr, et tu vas faire paître tes brebis, Al Mishkenot Aroim, sur les endroits, Mishkan, du Moshachen, voisinage, Aroim, là où sont allés les bergers. Alors, s'il faut faire attention parce qu'il y a deux notions. Tout le monde a compris qui sont les bergers. Les bergers, ce sont les prédécesseurs. Chaque génération a une référence. Il n'existe pas d'élève qui n'a pas eu de maître. Ça veut dire que Dieu dit au peuple juif, je t'ai donné les éléments qui font que tu pourras toujours t'en sortir. Al-Mishkenotaroïm. Tu vois comment la génération précédente a fait. Tu vois comment les maîtres d'avant ont fait. Comme ça, tu vas faire. Et comme ça, tu vas continuer. Ça veut dire qu'il y a un chemin. Ce que l'on va appeler ça le Sanhedrin. Ça veut dire, si tu ne sais pas, le roi veut essayer de trouver, et ça répond bien à la question. Tu es comme une endeuillée. C'est moi, je ne veux pas être à côté du coup. Les autres savent comment faire. Et moi, je ne connais pas mon destin, je ne sais pas ce qu'on veut de moi. Tu sauras toujours quel est ton chemin et ce qu'on veut de toi. Selon le schéma que t'ont proposé les maîtres d'avant. Maintenant, attention. C'est exprimé dans des mots auxquels il faut faire attention. D'abord, il est écrit, Tseilach sort de Ikve Hatson. Ekev, c'est le mot Yaakov qui veut dire le talent. Le talent. Akev. Akev en hébreu, ça veut dire le talent. Alors attention. Chaque fois qu'il a marqué le talon, c'est jamais innocent. Pourquoi? Parce que vous avez une paracha entière qui traite du mot Ekev, le talon, ou qui commence plutôt par le mot Ekev. Et Abraham Avinu aussi, lorsque Dieu l'a choisi, il a dit Ekev Asher Shama Abraham Bekoli. Ekev. Ekev en hébreu, ça veut dire parce que ou grâce au fait que. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot talon pour dire grâce à ou par le fait que? La Gemara dit qu'est-ce que c'est Ekev? Elu ha-mitzvot she'adam dash de akevav. Il y a des mitzvot que l'homme piétine avec ses talons. Ekev asher shama, ça ne veut pas seulement dire parce que, mais ça veut dire tout le temps. Lorsqu'on dit Ekev asher shama, c'est pas seulement dire Avram est allé dans les voies que nous indiquait Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il y allait entièrement. Ekev, ça veut dire il n'a rien laissé des choses que l'on foule au talon. Lorsqu'il est marqué Vaya Ekev Tishmeun, lorsque la bracha est donnée au peuple juif, Moshe Rabbeinu veut leur donner la bracha au peuple juif avant de mourir, il dit Vaya Ekev Tishmeun, si jamais, à condition que, par le fait que vous écouterez. Qu'est-ce que c'est par le fait que, dit le Midrash? Rashi le cite là-bas. Il dit, si vous observez les mitzvot, shadam dash ba'kevav, les petites choses, pas les grandes choses. Là, il y a un grand yesod, il y a une grande question à comprendre. Vous savez que l'homme est attiré par les grandes choses et il est repoussé par les petites choses. Lorsqu'un choix est important. Lorsque un choix, il met en œuvre ses ressources pour essayer de trouver quel est son meilleur choix. Mais ça, c'est lorsqu'il s'agit de quelque chose d'important. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas important, Ekev, Akev, ce que les gens foulent au talon, on trouve que c'est se rabaisser que de s'occuper de telles choses. Pourquoi? Pour une raison simple. Parce qu'on est accepté d'être jugé ou d'être mis en cause sur des choses importantes. Sur les choix, les grands choix, les choses qui sont souvent très peu déterminées, on est accepté d'être jugé. On est accepté de se mettre en cause et on est accepté de reconnaître la valeur ou le contraire chez quelqu'un. C'est les options. Mais sur les petites choses dans la vie, les petites mitzvot, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on se sent petit. Un enfant lui dit, c'est important de lacer ses chaussures. Mais un adulte sait que ça n'est pas important. Ça n'a aucun intérêt. On ne va pas juger quelqu'un sur la façon dont il lace ses chaussures. On va aller plus loin encore. Je peux comprendre que le bon Dieu me juge selon mes grandes options. Il m'est plus difficile à comprendre qu'il me juge sur des petits détails. On va aller plus loin encore. Il y a une mitzvah dans la Torah. C'est la mitzvah des tzitzit. Tu as un habit à quatre coins, tu dois mettre des tzitzit. Ok. Qu'est-ce que c'est le mot tzitz? Tout le monde sait, ça vient du bourgeon, c'est ce qui vient après. C'est quelque chose qui pend au vêtement. Maintenant, on ne va pas faire l'histoire de la mitzvah tzitzit, les raisons, les pourquoi, les comment. Il y a une mitzvah, tout le monde connaît la mitzvah tzitzit. Maintenant, il y a une grande différence s'ils sont en laine ou en lin. S'ils sont en soie ou en synthétique ou en laine. Ça, on comprend déjà moins. En plus, il y a une importance dans la longueur. Il y a une importance dans le tissage. Ça, on comprend encore moins. Moi, je veux bien mettre des tzitzit. si ça prend 2 minutes d'aller l'acheter quelque part. Mais s'il faut que j'apprenne 5 chapitres dans le Shulchan Aruch, et que je me soucie de savoir s'ils ont la longueur requise, l'épaisseur requise, la matière requise, c'est un investissement que je trouve petit. Je veux bien qu'on parle des choses importantes, mais je ne veux pas qu'on parle de choses qui sont insignifiantes. Alors sachez, lorsque quelqu'un va se convertir, le Bédine pratique ce qu'on appelle la Kabbalat Mitzot. Ça veut dire l'engagement de la personne de faire partie ou non et de prendre sur lui le joug des Mitzot. Tu fais partie du système du peuple juif. Tu es géré par les Mitzot de la Torah, oui ou non? Très bien. Là-bas, il est écrit, on ne va pas lui raconter à ce guerre les 613 Mitzot, on ne va pas lui dire toute la Torah Kula, parce que si je commence, alors chaque procédure, ça va durer des années. Modimlo ktsat mitzvot kalot et ktsat mitzvot chamurot. On lui dit quelques petites mitzvot et quelques grandes mitzvot. Qu'est-ce que c'est les petites mitzvot? Netilat yadayim, tzitzit, kashrut. On lui dit aussi les grandes mitzvot, le Shabbat, Yom Kippour, Nida, voilà. Demande le Meir et un commentateur. Si tu lui dis déjà les grandes mitzvot, il sait qu'il risque gros. Il sait que c'est important. Pourquoi as-tu besoin de lui dire les petites mitzvot? Va à l'essentiel puisque tu n'as pas le temps. Il vaudrait mieux dire plus de grandes mitzvot plutôt que de partager, dire un petit peu de grandes mitzvot, un petit peu de petites mitzvot. Il répond et dit ceci. Dit ce qu'un juif doit assimiler et ce qu'un non-juif n'est pas obligé de comprendre, c'est que les petites choses ont de la valeur et pas seulement des grandes choses. Dans la vie, tout le monde comprend que les grands choix ont de la valeur. C'est les options. Mais les petites choses, on ne comprend pas qu'elles aient de la valeur. Seulement la valeur de la vie, ça n'est pas la valeur des grandes choses, c'est autant la valeur des petites choses. Et ce que nous, on veut faire comprendre aux non-juifs qui veulent se convertir, ça n'est pas la valeur des mitzvot, c'est la valeur de la vie. On va expliquer très simplement. On a donné l'exemple des tzitzit. Si c'est vraiment important de mettre des tzitzit, mais ce n'est pas tellement important la façon dont on les tisse, la façon dont on les coupe, la matière dans laquelle ils sont faits, leur longueur, leur largeur et la façon dont on les place. Alors, il y en a un qui va mettre des tzitzit en laine, et l'autre va dire c'est beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, une chose qui est très pratique, c'est de les mettre en nylon transparent. Et puisqu'il n'y a pas l'épaisseur, on peut très bien se débrouiller pour pouvoir les mettre dans une matière et d'une façon que ça ne se voit même pas. Vous allez me dire, alors on a perdu tout le bénéfice. Ok, donc ça doit se voir. Mais pourquoi 8 fils? Je vais en mettre un. C'est la même chose. Ceux qui peuvent le plus, peuvent le moins. Pourquoi comme ceci ou comme cela? Un, il va mettre un ruban rouge. Le troisième, il va mettre un ruban bleu. Le quatrième, un scoubidou. Et le cinquième, il aura raison, il ne mettra rien du tout. Parce que si les options sont tellement importantes, c'est qu'aucune n'a de valeur, puisqu'elle peut être remplacée par une autre. À partir de ce moment-là, la chose n'a plus de valeur. Ça qu'il faut comprendre. C'est que si je n'ai pas un Shulchan Aruch très précis sur chaque petite chose, et que chaque petite chose n'a pas de valeur, c'est que la chose elle-même, elle n'a pas de valeur. Si je peux mettre des tzitzit n'importe comment, à la fin, hein, il vaut mieux marquer le mot tzitzit ici. Ça veut dire que comment on se comporte dans la vie, on va se comporter avec les mitzvot. Mais si quelqu'un fait comme ça dans la vie, il est perdu. Seulement, il nie que c'est des choses qui ont une importance. Pourquoi est-ce que l'homme est ainsi fait que s'il ne se brosse pas les dents, il perd ses dents? On n'en sait rien. Mais c'est des petites choses qui devraient ne pas avoir de valeur. Et pourtant, elles ont une immense valeur. Pourquoi l'homme est ainsi fait qu'un grain de sable dans son organisme, une cellule qui est un petit peu atrophiée ou qui a dévié un petit peu, ça le conduit à la catastrophe? Il n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que si on observe la vie elle-même, le bon Dieu a fait les choses de telle façon qu'il n'y a rien, que je sois la plus petite chose au monde, qui n'a pas une valeur tellement énorme qu'elle conditionne tout le reste. Alors maintenant on essaye et on va pouvoir arriver à comprendre pourquoi. La vie, ce n'est pas des options, ce n'est pas les grandes lignes. C'est la valeur que prend chaque choix et chaque instant. À partir du moment où je radicalise et je viens et je dis, mais non, le vrai problème, ce n'est pas les titres, comment ils sont, comment ils ne sont pas, c'est que tu as ignoré une constante de la nature, une constante de la création, puisqu'on a dit, c'est ça le mot, Shechet Yamim Pa'avod, le bon Dieu t'a préparé dans le monde de quoi le servir. Même une cellule, ça a été préparé pour ça. Alors maintenant, tu comprends que tu puisses dépendre d'une cellule. Même un geste, tout dépend de ça. C'est-à-dire que les petites choses ont la valeur, qu'elles ont la force d'engager la personne, exactement comme les grandes choses. Tu me dis, alors, il n'y a plus de grands et de petits dans la Torah, c'est vrai. Il n'y a de grands et de petits que dans l'échelle de ce qui nous est proposé. Mais dans la valeur humaine que l'on prend à observer la mitzvah, il n'y a pas de petites choses et de grandes choses. C'est pour ça que les Pirkei Avot dit, « Iata yodea matan scharan shel mitzvot ». Tu ne connais pas la récompense de chaque mitzvah, parce que toi, tu ne peux pas cerner la vraie valeur. Il est possible que le monde entier tienne sur une petite chose. On va essayer de donner des exemples. Dans la vie, c'est difficile de juger les gens. On essaie de juger sur les grandes options, mais on n'a pas confiance. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités. Ou on est honnête ou on est malhonnête. Malhonnête, ça veut dire qu'on va juger quelqu'un à son insu. On va étudier son caractère. On va étudier là où il manque de liberté. Par exemple, on va prendre son écriture au moment où il ne fait pas attention à comment il écrit, et ça va révéler tous les traits de son caractère. Ce qui ne veut pas dire que la personne, lorsqu'elle évolue, elle ne peut pas se contrôler, et qu'elle révèle quelque chose de différent de ce qu'elle a révélé dans l'écriture. La preuve, c'est que si on lui dit qu'on va la juger sur son écriture, elle va avoir une toute autre écriture. Je peux juger quelqu'un à son insu. Mais ça veut dire juger aussi son Yetzer Hara comme son Yetzer Hatov. Juger ce qui, au fond de lui, l'entraîne vers le bas. Pourquoi? Peut-être qu'il ne se laisse pas entraîner vers le bas. J'ai un autre moyen. Il est écrit dans le Midrash, dans la paracha de Shemot, que Dieu, Bochano Bedavar Katan, il juge avec les petites choses. Moi, cher Rabbeinu, il y a une brebis qui est partie. On va voir de quelle façon il va la ramener. C'est une petite chose. C'est pas l'insu de la personne. C'est comment il évalue les choses. Je peux juger quelqu'un avec une petite mitzvah. Je n'ai pas besoin des grandes options de la vie pour le juger. Mais qu'est-ce que je vais juger? Je vais juger sa vigilance. Je ne vais peut-être pas savoir quels sont ses choix. Mais je vais juger la nature de la personne dans le fait que je puisse compter sur lui, oui ou non. Dans le fait qu'il est à ma disposition, oui ou non. C'est ce qui est marqué. On prend un petit exemple. Tout le monde connaît l'histoire de Rivka. Eliezer, il avait dit ceci. La première, qui non seulement me propose à boire, mais elle donne à boire à mes chameaux. Imaginez-vous que ce jour-là, elle a autre chose à penser, et elle n'a pas pensé aux chameaux. Il y a une grande différence entre devenir Rivka, qui fait partie des mères du peuple juif, et être une inconnue dans l'histoire. Tout ça pour une petite action. Tu me dis, mais cette petite action, ça ne révèle pas la personne. Si, mais ça va révéler autre chose. Ça ne va pas révéler ses choix intellectuels. Ça ne va pas révéler comment est-ce que la personne, elle considère le monde, quelles sont ses options philosophiques. Mais ça va révéler combien elle est à la disposition de la mitzvah. C'est ça ce qui a marqué Shechet Yamin Ta'avod. Le bon Dieu t'a préparé un monde pour que tu puisses te mesurer à ce monde et savoir comment tu es à sa disposition. Ça veut dire comment tu es à la disposition de ce qu'il t'a demandé. C'est pour ça que lorsqu'il a choisi Avraham Avinu, il a dit Umatsata et Levavo, Ne'eman. Tu as trouvé son cœur Ne'eman. Ne'eman, ça veut dire digne de confiance. Confiance en quelqu'un, c'est pas s'il m'arrive un grand malheur et il vient me repêcher lorsque je suis complètement par terre. Confiance dans quelqu'un, c'est quand une seconde ça va pas et on peut compter sur lui. Si on a besoin de tomber au plus bas pour que quelqu'un se penche sur votre cas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir confiance. Mais ça veut dire que finalement, c'est quelqu'un, il a quand même pitié, il ne laissera pas crever. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Quelqu'un qui est digne de confiance, c'est quelqu'un à qui je peux dire, tu peux venir 5 minutes. Vous me direz, comment, mais tout d'un coup, une petite chose, 5 minutes, ça devient énorme. Donner à boire à des chameaux, ça devient énorme. Parce que je veux savoir si la personne est à la disposition de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle croit qu'il doit être ou non. Faire attention aux petites choses, ça veut dire être disponible. Lorsque moi je demande un service à quelqu'un, je ne dois pas avoir besoin de lui demander le monde entier pour qu'il puisse bien m'écouter. Je dois pouvoir lui demander une petite chose. Sheshet Yamim Ta'avod, ce n'est pas les grandes choses simplement. C'est vrai qu'il y a aussi les grandes choses, mais c'est aussi les petites choses. Et ces petites choses, c'est ça qui fait l'essentiel. Parce que ça montre le rapport des gens avec le monde, avec la vie. Quelqu'un qui n'estime pas 5 minutes de vie, il n'estimera pas non plus la longueur des tzitzit ou la largeur des tzitzit. Il s'en fiche. Mais il s'en fiche aussi de 5 minutes de vie. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est ça ce qu'on appelle avoda, le service. Reconnaître Akadosh Baruch Hu dans la matière, c'est pas avoir une bonne idée et de dire je fais partie du peuple, je fais ceci. C'est lorsque les petites choses me dérangent, être au service d'eux. Est-ce que tu crois que c'est ce que le bon Dieu te demande aujourd'hui ? Non. Mais tu dis, mais quelle importance ? Exactement comme celui qui a besoin de toi 5 minutes. Mais malheureusement, comme on ne peut pas juger, quelquefois en 5 minutes, quelqu'un meurt. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il n'y a pas de petit ni de grand. La conséquence des choses n'a absolument rien à voir avec la façon de déterminer qu'elles sont petites ou grandes. Donc ce qui paraît une injustice totale, tu vas juger une femme, si elle est capable d'être la femme de Yitzhak ou non, si elle va être une des mères du peuple juif sur des chameaux, pas des chameaux, peut-être qu'elle n'aime pas les chameaux. Ah ben c'est justement le problème. Si le bon Dieu a créé les chameaux, c'est qu'on doit connaître et on doit savoir quel est le rapport avec les choses. Ça, c'est pas l'insu de la personne. Ça n'est pas juger quelqu'un selon son Yetzara. C'est juger quelqu'un selon sa réalité. Maintenant, on peut déjà tout doucement commencer à comprendre ce qu'a marqué Be'ik Ve'atson. Tu vas aller sur les pas. Ça veut dire, Ik Ve'atson, ne regarde pas simplement vers où on va. Vers où on va tous vers le Mashiach. C'est pas simple. On n'a rien compris avec ça encore. Comment est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas dire pour qui il faut voter, mais presque. Ça veut dire que il n'y a pas de choses qu'on ne puisse pas retrouver dans le Hakev, dans ce que les gens pensent qui ne sont pas importants. Je vais aller pas à pas, oui, pas à pas. Tu vas aller selon les pas de l'autre. C'est ça, l'institution du peuple juif. Deuxième chose. Reyed gidiotaïr al mishkenot aroim. Vous savez que le mot mishkenot, shachen, proximité, les endroits où, vous pouvez traduire comme vous voulez, mais encore un autre sens. C'est le mot mashkon. Mashkon veut dire le gage, la garantie. Pourquoi est-ce que ça veut dire la garantie ou le gage? Parce que lorsque j'emprunte de l'argent et que je donne en échange un mashkon, la halva, le prêt, il est à proximité de celui qui a prêté. Il n'est pas loin. C'est ça qu'on appelle ça un mashkon. Tu as prêté ton argent, je t'ai donné un objet. L'objet, il est près de toi. Il est donné en gage. Donc c'est pas si loin, tu n'as pas besoin d'avoir tellement peur. C'est prêt. Ce qu'on a peur, c'est de s'éloigner de son argent. Mais lorsqu'il reste prêt, sous n'importe quelle forme, on a moins peur. Ça s'appelle mashkon, ça me dit mon shaken. Tu aimes être voisin avec tes biens, mais tu es toujours voisin. On appelle ça mashkon. Qu'est-ce que ça veut dire, al mishkonot aroim? Pourquoi avoir utilisé ce mot mashkon? Alors sachez, le Midrash dit ici, lorsque le peuple juif se conduit selon la volonté divine, alors, c'est lui-même qui paye. Ça va bien, ça va mieux, c'est son histoire. Mais lorsqu'il n'arrive pas à rendre des comptes, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut, alors il y a des groupes du peuple juif, on va voir pourquoi ils sont mashkon, ils sont garants, ils sont en gage. Les premiers, c'est les tzadikim. Al mishkenot aroim. On a employé le mashkon, ça veut dire, hein, ne t'en fais pas, il y en aura toujours qui sont capables de donner des gages. C'est ça que la Gemara dit, tout le monde connaît ce Gemara dans le traité de Shabbat. Tzadikim nitfasim be'avon ador. Le tzadik est attrapé dans la faute de la génération. On a déjà une fois expliqué pourquoi. Parce qu'il ne peut pas exister une génération. Il ne peut pas exister une histoire qui ne rende pas des comptes sur son existence. Je ne peux pas vivre à crédit. On peut vivre à crédit un peu, mais une génération entière ne peut pas vivre à crédit. Vivre à crédit, ça veut dire je ne mérite pas ce que j'ai, mais un jour je le mériterai. Il faut bien une fois payer. Ce qu'on appelle la midat rachamim, la façon qu'Akadosh Baruch Hu a de juger de rachamim, c'est-à-dire selon la pitié, c'est de donner crédit, faire crédit. Bon, on ne paye pas tout de suite. Tu es incapable de payer maintenant, tu paieras après. Tu ne peux pas donner des comptes maintenant, tu donneras des comptes après. Il va bien falloir donner des comptes. Le tzadik, il peut donner des comptes. Lui, il est capable d'être jugé selon la midat hadin, selon la justice. Et comme il faut bien juger selon la justice, sinon les choses n'ont pas de valeur, parce que lorsqu'on vit à crédit, rien ne vous appartient, alors il faut que dans le monde s'exerce la midat hadin. Alors c'est le tzadik. Il y a un deuxième qui prend. C'est, tout le monde connaît l'histoire, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple juif quels sont les garants, alors on a dit ce sont les enfants. Ça veut dire que les enfants du peuple juif, c'est eux qui sont garants du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire que ceux qui sont garants? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont pris en gage? La façon simple de comprendre, c'est de dire, quand ça ne va pas bien, alors on s'en prend aux enfants. Pourquoi? Parce qu'eux aussi peuvent être jugés de Midat Hadin. Parce qu'eux aussi, eux, ils n'ont pas besoin de la Midat Rachamim puisqu'on ne le juge pas. Mais justement, parce qu'on ne le juge pas. Donc, ce n'est pas la même chose que pour les tzadikim. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre? Alors, il faut comprendre une chose. C'est que le peuple juif, on lui donne du crédit, on lui donne de l'avenir, à une condition. C'est qu'il éduque ses enfants. Quand on dit que c'est les enfants du peuple juif qui prennent, c'est-à-dire qu'on te donne un avenir, on te permet de continuer, mais si la continuation va dans le sens où toi tu devais aller, Tu peux dire, nous on n'est pas bien, mais nos enfants seront bien. Ça on accepte. Mais à partir du moment où ce que tu n'es pas bien, ça dégénère sur les enfants, c'est la fin du peuple juif. La Torah a été donnée au peuple juif et elle durera toujours. Seulement à un moment, il est possible que ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Parce que on est prêt à prendre des gaz sur l'avenir. Mais si toi, tu es capable d'éduquer tes enfants selon l'avenir. Mais si tu n'es pas capable d'éduquer tes enfants selon l'avenir, ça s'écroule. Cette leçon-là, elle a été donnée au peuple juif. Que non seulement c'est le gage, mais dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de générations. Sans faire de politique, tout celui qui observe les événements d'Eretz Israël voit ici exactement ce qui a marqué. Sans les enfants, c'est la fin. Au moment où tu veux du crédit, on regarde tes enfants. Les enfants ne sont pas capables de prendre la relève, ça se termine. C'est ce qu'on appelle que les enfants sont les gages. Ça veut dire, on veut bien que tu continues. Mais toi, tu n'es pas capable de payer. Alors, tu veux faire payer par tes enfants. Tu peux faire payer. Il y en a qui investissent leur retraite dans leurs enfants. Mais il faut que l'enfant comprenne qu'on a investi dans sa retraite. Si l'enfant n'en sait rien et qu'il n'a pas compris, tu n'auras pas de retraite. C'est exactement ce qu'on appelle le gage. On a demandé au peuple juif, on veut bien te donner la Torah. Mais il n'y aura pas de peuple juif sans Torah, il faut le savoir. Quand ça s'arrêtera comment? Mais le jour où tu n'auras plus d'avenir, tu seras obligé d'arrêter les frais. Ça, c'est une notion qui est indiquée lorsqu'on parle du peuple juif, dans quel chemin. On te dit attention. Al Mishkenot Aroim, tu dois aller selon ce que tu as vu dans les générations précédentes. C'est-à-dire que le Sanhedrin, il a donné un enseignement. Cet enseignement s'est perpétué. Il continuera toujours cet enseignement-là. Mais attention Al Mishkenot. Il faut comprendre qu'il y a des garanties. C'est que moins tu demandes au Sanhedrin, et moins il y a de Sanhedrin. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment c'est possible que dans les générations précédentes, il y a eu tellement de sages, et qu'aujourd'hui, il y a moins de sages dans le peuple juif. C'est vrai que c'est bizarre. Alors j'ai répondu, c'est très simple. Le nombre de sages, il est selon les questions qu'on pose aux sages. Plus il y a de questions, et plus il y a de sages. Moins il y a de questions, et moins il y a de sages. Voilà. Tu observes le nombre de questions que se pose la génération et qu'elle adresse aux sages, et tu verras le nombre de sages qu'il y a besoin pour les répondre. Il est possible que dans notre génération, il y a besoin de un quart de sages, ça suffit. Les générations précédentes, il y avait besoin de beaucoup. Tout est selon l'emploi. C'est ça le mashkon, c'est ça le garant. Selon ce dont tu as besoin, on te fournit. C'est la même chose pour les enfants, c'est la même chose pour la vie. Donc ici, il y a marqué. Un jour, tu ne sauras pas comment faire. Parce que les institutions, on n'en a pas. Les institutions, elles sont toutes à la merci, on dirait, entre parenthèses, de l'enseignement, du Sanhedrin. Et le Sanhedrin n'est même pas là pour juger, il est là pour étudier. La fonction première du Sanhedrin, c'est lorsqu'il y a un cas à juger, il le juge. Mais il n'est pas là pour juger, il est là pour étudier. L'étudiant qui est devant, lorsqu'il manque un représentant, il devient. Ça veut dire que la fonction de l'institution, c'est de trouver les motivations, de trouver les engagements, de trouver les façons de répondre aux problèmes. Et ça, ce sont les seules institutions. Donc on comprend que Moshe Rabbeinu et que le peuple juif pose une question. Il dit, mais comment ça va marcher tout ça? Tu vois, c'est très simple. Il n'y aura jamais d'interruption entre les générations. Ce qu'a fait la génération précédente, tu peux le faire. Ce n'est pas la génération précédente, c'est la génération d'avant. Ce qu'a fait celui-ci, Al Mishkenot Aroim. Ça commence par Abraham, Israël et Yaakov, et ça continue. Tu as tous les sages des générations qui sont à ta disposition pour te dire comment faire. C'est comme ça qu'on fait. Donc tu n'auras pas l'air d'une endeuillée, même si ça ne va pas. Tu comprends pourquoi ça ne va pas et comment ça ne va pas. On a dit qu'on expliquerait pourquoi Dieu dit au peuple juif Hayafa Banashim. D'abord, Il n'y a pas que l'extérieur, il y a fait, c'est la beauté. Et il n'y a pas que la beauté pour essayer de donner une définition à ce qu'on éprouve pour quelqu'un. On peut dire à quelqu'un qu'il est beau, mais si on ne lui dit que qu'il est beau, ça ne devient pas une injure, mais presque. Pourquoi ? Parce que on pourrait penser que quelqu'un ne soit pas jugé sans son extérieur. Alors ici, il faut savoir une chose. Le peuple juif, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il n'a de crédit que de l'extérieur. Yafa Banashim. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse. Le contenu, il est à donner par le peuple juif à chaque instant. Ce qui est garanti, c'est la forme. Le fond, ça n'est pas à Dieu de le garantir, c'est à l'homme de le garantir. Le peuple juif a conclu une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Qui dit alliance, dit extérieur. Mais il faut donner un contenu. S'il n'y a plus d'alliés, il n'y a plus d'alliance. Yaakov Avinu, tout le monde pose la question. Au moment où il s'est arrêté, il a dormi, il a vu le rêve avec l'échelle. On lui a promis qu'il aurait tout ce qu'il lui fallait. Et après, il s'est réveillé, il a fait une prière. Qu'est-ce que tu me donnes ? Lechem, lechol, ubeged, lilvod, shafti, shalom, el betavi. Donne-moi ce qu'il faut. Donc, les chachamim, on vient te dire. Et maintenant, tu demandes. Maintenant, tu pries. On vient de te garantir. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu ? Qu'il le ferait revenir sain et sauf avec tout ce qu'il fallait sur sa terre. Et que cette terre appartenait un jour. Le lendemain, tu te lèves dans ta prière, tu dis. Teni lechem, lechol, ubeged, lilvod. Est-ce que tu peux bien me donner de quoi manger, de quoi m'habiller, de quoi revenir à la maison ? On t'a promis. Il n'y ait aucune promesse qui soit valable lorsque un des deux côtés ne se trouve plus là. Yaakov Avinu, il a demandé une chose à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as promis, c'est bien, mais tu m'as promis à moi. Shema Yigrom Achet. Si je ne suis plus celui à qui tu as promis, est-ce que tu me donneras ça aussi ? C'est ça ce qu'il a demandé. Shema Yigrom Achet. Ça veut dire que dans l'Alliance, le contenu, il est à donner par le peuple juif. Le contenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. Ça qui est marqué ici, Hayafa Banashim. Il n'y a pas marqué, c'est la plus intelligente, la plus tzadekette, la meilleure. La... Non, Hayafa. L'extérieur, il est garanti par le bon Dieu. Mais il dépend de l'intérieur. Ça veut dire que toute promesse, elle a aussi besoin de celui qui lui donne un sens. Ça ne suffit pas de dire le bon Dieu a promis. Il faut aussi qu'on soit là pour récolter la promesse. Dans toutes les brachot, c'est la même chose, que ce soit collectif ou individuel. Un jour, quelqu'un a demandé à un rav qui s'appelait Rav Elchanan Wasserman, c'est un élève du Chofetz Chaim. Il y a marqué tout celui qui va 4 amot en Eretz Israël. Il fait 2,40 m, ça fait exactement. En Eretz Israël, Yesh lo chelek lo maba, il a une part dans le monde futur. Tout celui qui dit Ashri Yoshe Betecha, il dit 3 fois par jour, Ashri Yoshe Betecha, il a une part dans le monde futur. Tout celui qui fait Avdala, il aura un garçon. Quelqu'un lui a dit, moi je connais des gens, ils ont fait plus qu'Arba Matanavetzre, je vous promets qu'ils n'auront pas le monde futur. Il dit, je connais d'autres, ils ont pu dire Ashri 3 fois par jour, mais avec la façon dont ils se conduisent à côté, c'est sûr qu'ils n'auront pas le monde futur. Plein de gens ont fait Avdala toute leur vie, ils n'ont pas de garçon. Il a répondu, il a dit ceci. Un enfant, chaque fois qu'il a bien appris, tu lui donnes une pièce. Et à la fin de la journée, tu retrouves des enfants qui ont très peu appris, avec 3 ou 4 pièces. Et des enfants qui ont beaucoup appris, avec 0 pièce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, il y en a un qui a un trou dans la poche, et l'autre, il n'a pas de trou dans la poche. La bracha, l'alliance, le brit, le srout, c'est ce qu'on te met dans ta poche. Mais si toi, tu fais des trous dans la poche, il n'y a plus de bracha, il n'y a plus de sroute, il n'y a plus d'alliance. La façon dont toi, tu reçois les choses, ce n'est pas l'affaire du bon Dieu. C'est ça qui est marqué ici. Toi, tu dois te forger une personnalité qui est capable de tenir l'alliance. Alors, je vais t'expliquer comment tu vas faire. Mais tu n'es que Yafa Banashim. Auprès d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de garantie. La garantie, elle est sous une certaine forme. C'est qu'il y a l'alliance, il y a deux. Il y a Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël. À partir du moment où tu ne te définis plus comme le peuple d'Israël, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'alliance. C'est pour ça que ça n'est qu'extérieur du côté d'Akadosh Baruch Hu. C'est seulement Yafa Banashim, pas plus. Le contenant, c'est à toi de le forger. Ici, c'est de cela qu'on parle. On vient, on dit, tu sais, moi aussi je voudrais comprendre comment je fonctionne. Les autres savent, démocratie, ils iront jusqu'au bout. Libéralisme, ils iront jusqu'au bout. Communisme, ils iront jusqu'au bout. On peut déterminer comment ils fonctionnent. On peut déterminer les causes de la chute, comme on peut déterminer les causes de la réussite. Chez nous, le clan Israël, comment ça marche? Il dit, tu t'en tiens à ce qu'on t'a enseigné. Cette promesse, elle est là. Il y aura toujours quelqu'un pour te montrer le chemin à suivre. Le chemin à suivre, tu l'as. Tout le problème est de savoir quel contenu tu donnes aux choses. Mais le chemin à suivre, il existera toujours dans le peuple d'Israël. Vous savez que à chaque époque, le peuple juif s'est toujours plaint qui n'avait pas le chemin à suivre. La Gemara dans le traité de Bava Tzal dit, lorsque Yoshua est monté sur le trône, il est devenu Mélère, il est devenu roi, les jeunes riaient et les vieux pleuraient. Ceux qui avaient bien connu Moshe Rabbeinu, ils ont dit, c'est qui celui-là? Pnei Moshe ki pnei Chama. Moshe, c'était le soleil. Yoshua qui pnei Levana. Ils disent comme la lune. Il est pâle à côté de Moshe Rabbeinu. Au moment de la construction du deuxième temple, c'était la même chose. Ceux qui se rappelaient du premier temple, ils n'avaient pas envie de celui-là. Ceux qui n'avaient jamais vu, ils étaient tout contents. À chaque génération, ce sera comme ça. C'est pour ça que la Gemara répond et dit, Yiftar Bedoro Kishmuel Bedoro. Chaque génération a les leaders qui sont exactement adaptés à sa génération. Tu as toujours quelqu'un pour te répercuter, l'héroïne, qui sont les bergers. Et si jamais ces bergers-là eux-mêmes avaient ce problème-là, ils ont toujours la référence de la génération d'au-dessus. Mais il existe toujours une référence. Il n'existe pas de possibilité pour le peuple juif de vivre sans cette référence-là. Ça, c'est le contenant que le peuple juif est obligé de donner. C'est pour ça que Dieu lui dit, « Imlot et dit la chayafa banashim. » Il faut que tu donnes une façon de faire. Alors à ce moment-là, je garantis les choses. Sûrement qu'il y a des questions. Il ne faut pas se gêner. Je vais vous dire, on n'en dit jamais assez. Le problème aujourd'hui du peuple juif, c'est que la jeunesse ou n'a pas été formée ou a été déformée ou a été formé à autre chose. Mais le genre de problème dont on entend parler dans les journaux, ces derniers mois ou ces dernières années, c'est le révélateur de ce que toute une jeunesse n'a pas été éduquée. Ça veut dire que lorsque le peuple juif est menacé, regarde toujours les enfants. Et de là, on peut voir les deux aussi. Regarde les tzadikim, mais regarde les enfants. Tzadikim, il n'y en a pas beaucoup, et les enfants, il y en a encore moins. C'est ça la seule menace pour le peuple juif. Aujourd'hui, il n'y aurait pas un grand débat si le peuple juif doit constituer une société laïque ou non, si les enfants n'avaient pas été laissés ou délaissés, je ne sais pas comment vous appelez ça, et s'il n'y avait pas une idéologie qui poussait à ce que les enfants ne soient plus les garants du peuple juif. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est la majorité, et au contraire, tout le monde est surpris de voir que ça n'est pas ceux qui parlent qui votent le plus. Et souvent, ceux qui sont le plus de votants sont ceux qui parlent le moins. Donc on peut être surpris et voir que la catastrophe, elle n'est pas si grande. Mais la menace, elle viendra toujours de ce côté-là. Elle ne viendra jamais d'ailleurs. Voilà, j'en ai dit assez.
Pourquoi les bergers, vous dites, vous suivez les traces.
La route, pas, oui.
Et que les intrus deviendront les bergers d'Israël.
Alors je vais vous dire, si on n'en dit jamais assez, il ne faut pas en dire trop non plus. D'abord.
Non,
j'ai bien compris. C'est une Gemara à la fin du traité de Sota. Mais attention. Moi, je n'ai pas de mesures précises pour savoir combien on est à l'approche du Mashiach et à combien à l'approche du Mashiach la Gemara se situe. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas prouver par l'absurde en disant, puisqu'on a décidé qu'on est à l'approche du Mashiach, alors on va étudier l'histoire comme ça ou comme ça, puisqu'on n'en sait rien. On peut le supposer et on l'espère. Mais ça n'est pas ni l'espoir ni la supposition qui donne un caractère exact au jugement. Donc il faut faire très attention et ne pas juger d'une façon hâtive. Maintenant, c'est vrai que si on s'en tient aux signes et qu'on veut prouver le contraire, peut-être qu'on pourrait. À partir du moment où la chutzpah, ça veut dire que des gens qui ne devraient pas lèvent la tête. Si on va étudier le contraire, on va dire, est-ce qu'on est proche du Mashiach ou non? Et que vous me dites oui, puisque la chutzpah, elle est tellement forte que c'est elle qui dirige aujourd'hui. Alors je dis, alors j'ai très très bon espoir que le Mashiach vienne vite. Mais le contraire, je ne peux pas le dire. Ça vient encore une fois de l'éducation. C'est-à-dire, vous expliquez tout de suite. Maintenant, on n'a pas le temps. Mais je pense qu'on a déjà parlé de ça il n'y a pas si longtemps. Avant Yaakov, on a remarqué que Esav et Ishmael, tous les deux ont quitté le peuple juif. Tu veux pas, tu t'en vas. Ils ont fondé les autres peuples, la destinée, ce n'est pas la destinée du peuple juif. À partir de Yaakov, tout juif reste dans le peuple juif. C'est pour ça que la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, a cette phrase. Israël, le juif, afal pishechata. Quoi qu'il ait fauté, Israël ou c'est un juif. Donc on arrive à un problème. C'est que le peuple juif reste le peuple juif, mais que tout celui qui est né juif reste juif aussi. Donc on est obligé de se mesurer à quelque chose qui est que toutes les tendances, elles commencent à être représentées. Puisque même celui dont l'idéal c'est que le juif soit laïque et athée, il est toujours juif. Et ça n'est pas moi qui peux lui dire, tu n'es pas juif. Comprenez? Ça veut dire qu'on est juif absurde. C'est le juif qui dit, moi je veux un état juif, laïque, athée. Mais celui qui le dit reste juif. Et comme je ne peux pas lui dénier le titre de juif, je suis obligé de compter avec lui. Il est évident que c'est fait comme ça, parce que la notion de tchouva existe. Alors qu'à propos de Esav et d'Ishmael, c'est plus une notion de caractère et de possibilité qu'une notion de tchouva. Vous savez que la Gemara a dit que Ishmael a fait tchouva. Mais quand même, il est resté le même qu'il est décrit dans la Torah. Vous savez qu'un jour, un juif est allé chez le Hafetz Chaim il y a 70 ans, et il a posé une question. Il lui a dit, on voit qu'aujourd'hui, les Arabes en Eretz Israël, c'est plus du tout la même chose que Ishmael. C'est des gens éduqués, des gens conciliants, ils font des études. C'est des gens qui ont eu accès à un certain savoir. Et avec eux, on va faire la paix. Et pourtant, la Torah dit le contraire. Elle dit de Ishmael que Vehouye Pere Adam, il sera un sauvage. On voit que la Torah attend. Alors il a répondu non, c'est juste la forme qui a changé. Il a dit avant, l'arabe c'était un paysan, Pere, sauvage. Maintenant c'est un médecin, Pere, sauvage. C'est un avocat, Pere, sauvage. Mais ce sera toujours le même sauvage. Et ce sera toujours aussi difficile de s'arranger avec lui. Esav, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est le caractère de la Avodah Zara. C'est Edom. C'est de celui de penser que si on ne veut pas s'arranger avec le bon Dieu, on s'arrangera autrement. Esav et Ishmael, ce sont deux possibilités qui n'existent plus pour le juif. On ne peut pas devenir Ishmael, on ne peut pas devenir Esav. On est obligé de rester juif. Quelle est la différence? C'est que le peuple juif, à l'intérieur de lui-même, contient son propre renouveau. Mais ça, c'est seulement à partir de Yaakov. Après avoir expulsé Esav et expulsé Ishmael, où eux vous diront qu'ils sont partis d'eux-mêmes, ils vous diront que c'est eux les vrais juifs, mais il en reste que le peuple juif garde et obligé de garder tout son contenu, parce que c'est de cela qu'est fait l'avenir aussi. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de juifs qui sont observants, dont les parents n'ont pas été. Ça veut dire que le peuple juif lui-même contient son propre renouveau. Alors de dire que parce qu'il y a la chutzpa, ça veut pas dire que ça va changer, tout dépend de combien on est loin de la venue du Mashiach, mais il est possible que ça change de nouveau et que les choses basculent. Donc là, on ne peut pas déterminer les choses de cette façon. C'est qu'il y a des questions. Israël a fait le pichérat à Israël. On ne peut enlever le titre de juif à personne. C'est terminé. Il n'y a que le bon Dieu qui s'occupera de lui. Je vais vous dire. Nous, on dit une phrase dans la Hamida, la répétition de la Hamida à Rosh Hashanah et Yom Kippour. On dit que Rachem Av Albanim. Que Dieu ait pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants. Vous voyez tout de suite la question. Pourquoi tu parles du père? La mère a plus pitié des enfants que le père.